Culture.
Eh bien, chers auditeurs et auditrices de Radio Sud, nous voilà une fois de plus revenus dans cette brillante émission de Radio Sud en culture qui fait la promotion de la culture d'ici et d'ailleurs, ainsi que des environs. Alors voilà, c'est toute une équipe qui est là à votre service, avec Nathan à la technique. Alors il est à la technique, alors on ne l'entend pas. Mais par contre, il permet que vous nous entendiez, n'est-ce pas magnifique? Alors voilà, il y en a qui parlent aussi, chère collaboratrice. Je vais commencer par Isabelle, tiens, par exemple.
Eh bien, c'est moi. Bonjour, bonjour tout le monde.
Voilà, c'est Isabelle Privot qui a quelque chose que les autres n'ont pas.
Oui, Coralie, je parle dans le micro.
Oui, tout à fait. Ben, comme Isabelle, j'ai aussi des choses que d'autres n'ont pas à vous présenter aujourd'hui, n'est-ce pas?
Et Lou.
Oui, moi aussi. Voilà, bonjour à tout le monde.
Qui est venu avec quelque chose d'anglais.
Oui, mais bon, je vais en parler en français.
Tu vas traduire.
Oui.
C'est magnifique. Voilà, et bien l'émission a démarré. Enfin, elle va démarrer tout de suite là, avec Coralie, qui a préparé un grand livre vert.
Oui, alors j'ai décidé de changer un petit peu. J'ai toujours un livre de littérature jeunesse au cas où. Mais je me suis dit, pourquoi pas vous parler un peu de bande dessinée aussi. Voilà, donc là c'est une bande dessinée pour les adultes, je la déconseille très fortement au-dessous de 16 ans, parce qu'elle est, elle a des dessins très explicites, tant au niveau sensuel qu'au niveau sanguinaire.
Oh.
Alors c'est une histoire qui va intéresser les fans de pirates, puisque la bande dessinée s'appelle Long John Silver, et elle est de Mathieu Lauffray et de Xavier Dorisson, qui ont fait un excellent travail. C'est une bande dessinée en 4 tomes. Alors moi ici, je l'ai en intégrale, et donc j'ai 2 tomes en un. Pom pom pom. Voilà, j'ai 2 tomes en un. Le premier s'appelle Lady Vivian Hastings. Donc voilà, je posterai des photos sur la page Facebook éventuellement, parce que le dessin est extrêmement réaliste et extrêmement sombre aussi. Voilà, avec des visages très carrés, une folie très marquée, puisque dans cette histoire de pirate, Long John Silver décide de se rendre à Guayacapanac, qui est une cité indienne perdue, qui serait recouverte d'or et donc pleine de richesses à ramener en Angleterre, n'est-il pas? Et donc, pourquoi le premier tome s'appelle Lady Vivian Hastings? Tout simplement parce que Lady Vivian est la jeune femme qui va commanditer cette expédition. Son mari, Lord Hastings, dans les 2 premières pages, on voit qu'il est en pleine découverte, qu'il annonce qu'il a trouvé Guayacapanac, mais il ne revient pas. Ça fait 3 ans qu'il est parti, il ne revient pas, et finalement, Lady Vivian reçoit une lettre mystérieuse de son époux qui l'enjoint à retrouver cette cité perdue, pleine d'or et de richesses. Voilà, donc le dessin est vraiment très très particulier, il fourmille de détails, ça c'est quelque chose qu'on peut lui laisser, parce que forcément pour un style de BD, c'est le style de dessin qui va primer en général. Si on n'aime pas le style de dessin, c'est beaucoup plus difficile de s'intéresser à l'histoire. Mais ici, ça fourmille vraiment de détails et le scénario est extrêmement bien ficelé. C'est vraiment une petite série de 4 bandes dessinées qui se dévorent en un après-midi. Ça peut être lu et vraiment dévoré.
Donc pour les journées d'hiver, on peut voyager au coin de son poêle à bois.
Exactement. Alors le voyage ne va pas être
des plus paisibles,
puisque bon, on est quand même au XVIIe siècle, donc c'est pas comme de prendre l'avion pour aller à Copacabana. Mm-hmm. Mais voilà, c'est vraiment une super bande dessinée. Et faut aimer les pirates.
Et c'est entièrement de la fiction ou c'est inspiré de faits ou...
Alors, Long John Silver est un pirate qui a vraiment existé, qui a vraiment navigué, qui a vraiment découvert énormément de richesses. Mais tout le côté cité indienne, Guayacapanac, c'est totalement fictif.
D'accord.
Voilà. Donc, n'essayez pas, du coup, de vous rendre à Guayacapanac. Il y a peut-être une ville qui s'appelle comme ça, mais elle n'est pas recouverte d'or. Et si elle l'avait été, ça...
Il y a longtemps qu'elle ne le saurait plus.
Exactement. Donc voilà, alors ici, comme j'ai la version intégrale, il y a également quelques planches avec des interviews du scénariste et de l'illustrateur qui parlent un petit peu de comment ils se sont inspirés des personnages de la vie réelle, hein, parce que Lady Vivian Hastings a vraiment existé aussi. Lord Hastings, ben, les Hastings, c'est quand même une dynastie qui est très très connue en Angleterre. Et donc ils expliquent un petit peu comment ils se sont inspirés de ces personnages réels pour créer leurs personnages fictifs qui sont du coup beaucoup plus... qui n'ont pas trait à la réalité, quoi. Lady Vivian Hastings, c'était ce qu'on appelle une bobonne à thé. Elle restait dans son salon, elle servait le thé, comme toute femme bienséante du XVIIe siècle. Heureusement, aujourd'hui, ça a changé.
Moi, j'aurais dit une lady à thé. Une lady. Une bobonne à thé, me semble-t-il.
Oui, en fait, disons que voilà, c'est, la vraie était un petit peu moins aventurière, alors que celle de la bande dessinée va carrément prendre les armes, mettre un pantalon et se joindre, se joindre à la compagnie. Alors évidemment, il y a eu des femmes, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des pirates, on va profiter pour parler un peu d'histoire pirate, qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire des pirates, mais il y a eu plusieurs femmes pirates qui se sont démarquées.
Oui, alors je connais pas les noms, mais il y a une Mary quelque chose. Mais
Mary Read, effectivement, voilà, Mary c'était Reed. Une des compagnes de Barbe Noire.
Barbe Noire, oui.
Voilà, une des compagnes de Barbe Noire. Et qui, du coup, elle s'était déguisée en jeune homme pour se faire engager comme marin. Mmh. Et qui, du coup, au fur et à mesure du temps, bah, on a bien compris que c'était quand même une jeune demoiselle, hein. Mais personne n'aurait jamais osé la toucher, puisque déjà, elle était très très forte à l'épée. Elle a oxy un nombre incroyable de personnes. Et puis, c'était quand même une des compagnes de Barbe Noire, donc on ne touche pas au grand capitaine.
Voilà. C'est incroyable, les femmes devaient se déguiser pour faire plein de choses. Je pense au théâtre de Shakespeare, où les femmes devaient aussi se déguiser. Oui. Enfin, je veux dire, non, elles n'étaient pas...
Elles n'étaient pas admises, donc si elles voulaient...
Et si donc elles voulaient, il y a une histoire comme ça d'une femme qui s'était déguisée en homme simplement pour pouvoir jouer dans les pièces de Shakespeare. C'est hallucinant.
Il y a même une femme qui a voulu être pape. Hein.
Oui, la papesse Jeanne.
D'où vient la fameuse expression pour les du pape. Parce qu'en fait, on devait vérifier que le pape était bien formé, qu'il avait donc bien ses deux merveilleux petits attributs, n'est-ce pas?
Trois, donc, normalement. Hein.
Oui, mais celles concernées. Disons que s'il y a un serpent sans noisette, c'était pas très intéressant. Et donc, il fallait vérifier que les noisettes étaient bien à leur place. Et quand cette papesse a été élue, bah, c'est comme ça qu'est venue la fameuse expression pour les « du pape ».
Okay.
Voilà. Bien. Mais du coup, pour en revenir à Mary Read, la légende dit qu'elle avait l'habitude de découvrir sa poitrine pendant qu'elle tuait les hommes pour leur dire « Chet, tu peux être tué par une femme
wow. ».
Au moins pour eux, c'était une dernière belle vision avant de mourir.
On va dire ça.
Oui.
Il faut voir le positif là où on peut, hein. Et donc, une autre des grandes figures de ce bouquin étant Lady Vivian, qui, comme toute femme qui se respecte, une fois son mari disparu pendant 3 ans, doit prendre un nouvel époux, décide donc de prétendre à un des amis qui devient son amant qu'elle est enceinte de lui, et donc de ruiner leur amitié. Et c'est pour ça que j'ai choisi la chanson Jenny, dont le sous-titre est « I wanna ruin our friendship », « Je veux détruire notre amitié ».
Triste programme.
I'm using your shirt.
Bon ben voilà, alors on va passer à la rubrique suivante qui concerne le chat. On a adopté il n'y a pas très longtemps deux petits chatons.
Oh.
Alors du coup, je me suis rendu à la bibliothèque de Florentville pour voir un peu ce qu'il y avait sur la question. Et alors je suis tombé sur, j'ai trouvé plutôt le comportement du chat. Hein, de A à Z, comprendre et agir. Les conseils d'une vétérinaire comportementaliste, elle s'appelle Valérie Dramard. C'est publié chez Ulmer, donc ça vient de la bibliothèque de Florentville. Donc de A à Z, on comprend que c'est une espèce de dictionnaire. Alors là, c'est un aspect sympathique. Est-ce qu'on peut...
piocher.
Oui, voilà. Si on se pose quelques questions que ce soit, on va trouver dans le dictionnaire, dans ce dictionnaire, la plupart des questions qu'on peut se poser par rapport au comportement du chat. Par contre, si on veut entreprendre une étude de la communication avec le chat, c'est peut-être pas le livre idéal, hein. Il faudrait plutôt lire Darwin, Konrad Lorenz, Franz De Waal, des gens comme ça qui étudient le comportement aller de manière, comment est-ce qu'on pourrait dire, plus académique. En tous les cas, de manière continue sur
plus
un
poussée,
thème
plus
ici.
Plus profonde.
Ouais. Alors voyons voir, par exemple, nous avons agression. Hein? Alors l'agression peut être territoriale, hein? Les chats sont des animaux territoriaux. Elle peut être par irritation. Par exemple, une douleur continue, hein, c'est très, on se connaît tout ça, c'est fort, fort énervant. Ben, les chats ont la même chose. Il y a l'agression par peur. Mm-hmm. Hein, quand généralement un chat va s'enfuir, mais si on le coince dans un coin qu'il n'a plus de possibilité de fuite, il va attaquer. L'agression de prédation. Alors, c'est assez intéressant parce que les chats un petit peu perturbés dans leur tête, comme ça, prennent le mollet des femmes, principalement, je ne sais pas pourquoi, comme une proie.
Ah oui, mais je confirme.
Et alors, ils attaquent, ils mordent, et puis il faut aller leur patte arrière pour griffer, enfin, comme ils le feraient avec n'importe quelle proie. Voilà, c'est le genre de choses qui sont expliquées, avec chaque fois la conduite à tenir. Hein. Donc, si l'agression a toujours été présente, si elle est apparue à un moment donné, des choses comme ça. Alors, on vous parle par exemple de la posture en U inversée, caractéristique de l'agression territoriale.
Oui, quand le chat fait le dos rond.
Le dos rond, très très rond, et les oreilles baissées.
Qui marque en crabe, comme ça.
Oui,
ils se déplacent comme des crabes. Et ils ont l'air particulièrement grotesques la plupart du temps, à se déplacer de cette manière-là.
Et très mignon quand ce sont des chatons qui font ça.
Très mignon, c'est vrai.
Voilà. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Le mieux pour apprendre la communication avec les chats, c'est d'avoir deux chatons et de les regarder jouer ensemble.
Oui.
Parce qu'ils passent par toutes les émotions possibles et imaginables, vraiment d'une seconde à l'autre.
Oui.
Et donc ça, c'est assez intéressant. Hein. Vous avez un chat qui est un peu agressif. Hop, vous allez à la bibliothèque de Florentville, enfin, quand j'aurai rapporté le livre. Et là, vous pouvez avoir des informations très rapidement et facilement.
Des pistes de réponses et de solutions à mettre en place.
Voilà. Alors parfois, ça en arrive au fait d'aller chez le vétérinaire. Oh, c'est une vétérinaire comportementaliste, donc et il est vrai que il y a certaines choses qu'on peut résoudre soi-même, mais un chat où le problème psychologique est installé, Il faut généralement aller d'un comportementaliste et de médicaments. Hein.
Mm-hmm. C'est, oui, on a eu un petit problème avec nos petits chats, la femelle qui avait été sevrée un peu tôt. Elle faisait pipi en dehors de sa litière. Et puis on ne s'est pas inquiété. Et son frère lui a montré finalement comment on faisait. C'était très chouette. Donc maintenant, le problème est résolu. Maintenant, c'est le petit qui a un tout petit souci. Dès qu'il voit un morceau de tissu, en tout cas un morceau de mon pull, il commence à téter comme si j'étais sa maman. Donc il souffre, d'après le bouquin, d'un syndrome d'attachement. Donc on a trouvé une solution. On lui propose de faire autre chose. Je le mets sur l'épaule, comme ça il ne peut pas téter quoi que ce soit. Et ça a l'air de marcher aussi.
Alors, dans les problèmes qu'on peut rencontrer avec les chats, il y a les marquages. Hein.
Oui, donc le chat qui fait pipi dans le lit pour prouver que c'est son territoire.
Voilà. là, c'est qu'il y a quand même déjà beaucoup de tensions avec l'humain. Hein.
C'est des choses qui arrivent très souvent, en
très
fait.
Souvent,
c'est très, très fréquent, les chats qui vont faire pipi dans le lit.
Moi, j'ai jamais entendu ça.
Ah, mais moi, j'ai beaucoup d'amis à chats. Beaucoup d'amis à chats.
Normalement, ils font plutôt ça dans des endroits stratégiques qui les rassurent, eux. Et c'est bizarre qu'ils fassent ça dans un lit. Il faudra un peu se poser la question.
Ah oui, ben du coup...
Ma vie, c'est un peu particulier. Alors, dans les marquages, il y a évidemment les urines des chats mâles. Alors, ne surtout pas nettoyer ça avec de l'eau de Javel ou avec un détergent puissant. Moi, je conseillerais de nettoyer ça à l'eau claire. Très rapidement, l'humain, nous, donc, on ne sent plus l'odeur. Par contre, le chat la sent toujours. Ah, si un autre animal, par exemple un chien qui va débarquer ou un autre chat, là c'est un petit peu difficile parce que chacun va avoir tendance à recouvrir ses odeurs, recouvrir les odeurs de l'autre, etc. Donc ça peut être un peu problématique. Et il y a aussi les marquages avec les griffes. Donc tout ça, c'est des manières pour le chat bien souvent de se rassurer. Enfin voilà, tout ça est expliqué. Alors, assez régulièrement, il y a des pages qui sont imprimées en rouge et c'est un cas clinique particulier. Donc, c'est Pedro, un gratteur fou.
J'aime beaucoup Pedro, le gratteur fou.
Alors, on rit avec ça, mais bon, quand vous avez acheté un canapé en cuir bien cher ou un divan anglais, et puis vous le retrouvez complètement détruit.
Oui, par Pedro, le gratteur fou.
Et donc, il y a plusieurs interprétations, et souvent, ça correspond à une forme d'anxiété, d'angoisse ou à un problème de communication avec les humains. Parce qu'ils attendent parfois certaines choses, nous on ne comprend pas, et on leur donne une réponse paradoxale qui ne fait que les angoisser plus, et ainsi de suite. Alors, il y a aussi les chats parachutistes. Alors, on apprend des choses extrêmement intéressantes, à savoir que 2/3 des chats parachutistes ont moins de 3 ans. Au-dessus de 3 ans, ils sont déjà morts, les chats parachutistes, donc il n'y en a plus, et 54% sont des mâles. 2/3 des chutes ont lieu entre le 3e et le 5e étage.
Ah, quand même.
Alors, dans 62%, le chat est en état de choc. Dans 61%, il souffre de lésions pulmonaires. 41% de fractures.
Ah bah oui, forcément. Enfin,
oui.
Si le chat survit après 24 heures, le pronostic vital est bon. Moi, j'ai déjà eu un chat qui était tombé d'un 10e étage qui n'avait rien. Mais rien de rien. Hein.
Ah, il s'était bien rattrapé.
Sur le trottoir.
Ah, oui.
Oui, c'est vraiment...
Sur du béton.
Ou des pavés, je ne sais
pas. Mais,
quelque chose de très dur.
Pas de l'herbe,
quoi.
Oui.
Voilà.
Pas,
alors, c'est assez curieux, parce que très très tôt, le chat a le vertige, enfin, a peur du vide. Et donc, souvent, c'est de la maladresse, en fait. Hein. Mm-hmm. C'est des chats qui sont un peu maladroits. Donc, évitez de laisser promener votre chat sur le rebord du balcon si vous habitez au 10e étage ou au 5e étage. Parce que, bon, s'il est un petit peu maladroit, ça peut vraiment lui poser des problèmes. Enfin, voilà, c'est des exemples de choses flairées, reniflées. Alors, quand le chien vient se frotter sur vous... En fait, il faut savoir qu'il dépose ses odeurs.
Il marque son territoire.
Pour dire, ceci est mon humain.
Enfin, ceci est mon... Oui, c'est ça.
Oui, c'est aussi quelque chose d'apaisant pour lui, de rassurant. Et on vend d'ailleurs un spray de phéromones de bien-être. Ça s'appelle Feliway.
Oui, c'est ça. C'est le Feliway.
Et donc, voilà. C'est, par exemple, vous avez un chat qui va faire ses besoins à un endroit où des marquages odorants. Et donc, généralement, si vous mettez ce spray-là, à cet endroit-là, il va être apaisé par l'odeur du spray et il n'aura plus besoin de faire le marquage. Je dois vous avouer que dans certains cas, c'est assez théorique. Ça peut marcher quand, comment dire, le problème n'est pas installé. Une fois que le chat a pris ses habitudes, c'est très très difficile de s'en sortir par soi-même.
Oui.
Alors une dernière chose, en cas de comportement, un comportement, le chat ne fait rien, et puis il amorce le comportement, il a le comportement, et puis le comportement se termine. Hein, donc par exemple, je suis là, je suis posé, je me lève, je m'apprête à aller gratter, je gratte, et j'ai fini de gratter. Et donc si on suppose qu'il ne veut pas gratter au bon endroit, eh bien il faut lui envoyer un stimulus désagréable, le mieux c'est un pistolet à eau. Il faut apprendre à bien viser et surtout faire comme si ce n'était pas à vous. Donc le chat va être tout étonné de ce qui lui arrive. Prenez bien soin aussi d'avoir l'air très très étonné ou très étonné.
Ah oui, oui, oui.
Pour qu'il ne vous associe
qu'est-ce qui
pas.
Se passe,
qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que tu as eu oh.
Parce que si vous engueulez le chat qu'il est conscient que c'est vous, il va bien sûr arrêter. Mais dès que vous aurez le dos tourné,
il va recommencer.
À la différence du chien, et encore. Mais en tout cas, le chat, c'est sûr et certain. Donc il faut lui infliger une punition qui lui semble tomber du ciel.
Divine, une punition divine.
Voilà. Et avec ça, on peut déjà supprimer pas mal de comportements. Et une dernière chose peut-être à dire, c'est qu'il ne faut pas essayer de supprimer le comportement. Ce sont des choses dont ils ont besoin. C'est comme nous, les communications sociales, etc. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment un besoin qu'on ne peut pas supprimer. La plupart du temps, il faut essayer de dévier.
Oui, trouver un dérivatif, en fait.
C'est de faire un compromis. Dire au chat, voilà, le canapé, ceci... le livre tel qui vient de la bibliothèque, tu ne peux pas le manger. Et tiens, voilà une caisse en carton, joue avec. Ou de proposer des grattoirs. Le problème, c'est que les chats ont une furieuse tendance à refuser ce qu'on leur propose.
Oui.
Et donc, il faut avoir l'air de leur donner ça. C'est eux qui l'ont volé, quelque part. Mmh. Et ça marche beaucoup mieux. C'est très bizarre, hein, mais c'est comme ça que ça va.
J'ai une amie qui a fait ça avec son grattoir. Elle l'a installé comme si c'était un porte-sac à main. Et donc, elle mettait ses sacs à main dessus. Et donc, le chat venait faire ses griffes sur son espèce de grattoir griffoir, là. Puis, elle a fini par retirer ses sacs et il a pris possession de l'objet entièrement.
Ouais.
Et il était particulièrement fier quand il se postait tout en haut et qu'il regardait la salle, l'air de dire « Je suis le roi du monde ». Et nous, dans notre tête, forcément, on riait beaucoup puisqu'on savait que c'était un objet qui était fait pour lui à la base.
Alors, une dernière chose, je vous conseillerais de lire... Tous les chiens et tous les chats de Konrad Lorenz, qui est un scientifique, il a le prix Nobel, il a participé à la découverte de la danse des abeilles. Là.
Oui. Mm-hmm.
Et c'est le monsieur qui élevait des oies, et, un scientifique de renommée internationale, et puis il nage avec ses oies. Et il a fait plein d'expériences intéressantes, allez, des articles scientifiques qui sont un peu difficiles à lire. Mais par contre, il a écrit ce livre, il parlait avec tous les animaux. Là, il parle de poissons, d'oiseaux, etc. Et puis tous les chiens et tous les chats. Donc, ça, c'est vraiment une excellente introduction à la communication avec l'animal.
Eh bien, voilà. Voilà un thème qui t'inspire, Jean-Marie.
Oui, oui, ah, ben, j'adore les animaux. Hein. Alors, une petite illustration musicale que vous avez déjà probablement entendue, qui parle de chats.
Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus l'avocat.
Moi vouloir être un chat, tout bien soit quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, mais toujours rester à toi.
Prendre des michafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines.
Moi vouloir être un chat et ne risquer de tes doigts quand le caresse sur moi. Quand dehors il fait froid, à
Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi.
On va passer d'un animal à l'autre, hein. Et alors Lou va nous parler d'un animal vraiment bizarre, me semble-t-il.
Oui, un cochon. Et pas n'importe lequel. Non. Alors, en fait, c'est le titre d'un livre dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle « Le cochon qui veut être mangé » et « 99 petites histoires philosophiques ». Alors, c'est vrai que philosophique, c'est un mot qui peut faire un peu peur. On se dit, mon Dieu, ça doit être vachement barbant, des choses comme ça. Pas du tout. En fait, c'est un bouquin de Juliane Baghini, je ne suis pas sûre de la prononciation, qui est, en français en tout cas, paru aux éditions First en 2007. Et Juliane Baghini nous propose toute une série d'histoires synthétiques. C'est très court, ça fait une page.
Oui.
Et ça déclenche une gymnastique intellectuelle et une réflexion qui est parfois très amusante, parfois déroutante, parfois dérangeante aussi, sur notre perception du monde. Et alors c'est un bouquin que je recommande vraiment chaudement à tous ceux qui trouvent que de temps en temps les questions sont plus intéressantes que les réponses. Je trouve que Baghini en tout cas nous met devant des situations extravagantes et moi j'aime vraiment beaucoup. Alors je pense qu'un exemple vaut mieux, donc je vais vous en donner un et je vais vous parler du cochon qui veut être mangé. Alors ce cochon, c'est une femelle, elle s'appelle Priscilla. Et elle a été génétiquement modifiée, elle sait parler, et le but ultime de sa vie, tout ce vers quoi elle tend depuis qu'elle est petite, c'est de terminer mangée par un humain. Elle rencontre Max Berger, qui lui est végétarien depuis toujours quasiment, et qui est végétarien depuis 40 ans, mais il a encore dans sa mémoire le souvenir du goût des saucisses, du saucisson, oh là là, du lard, particulièrement le lard fumé, le fait saliver. Mais bon, il a toujours respecté ses principes, je ne mange pas quoi que ce soit qui vient d'un animal. Bon, il rencontre Priscilla, qui essaie de le convaincre qu'elle est prête à se précipiter vers l'abattoir, qui est confortable, qui l'accueille, qui l'attend, pour finir dans l'assiette de Max. Max finit par penser qu'effectivement, ce ne serait pas respectueux de ne pas la manger. Donc, il décide de la manger et Priscilla va, toute joyeuse, à l'abattoir. Max est à table et on lui dépose le plat sur lequel se trouve le lard qui a l'air absolument délicieux, qui vient de chez Priscilla. Et puis Max subitement a comme une petite, oula, un peu de nausée. Alors est-ce que c'est juste une réaction réflexe causée par toute une vie de végétarien, ou est-ce que c'est un signe physique d'une détresse psychique? Alors, question à laquelle je ne sais pas répondre, mais en tout cas, se reprenant, Max saisit sa fourchette et son couteau. Voilà l'histoire de base. Et puis suit, en général c'est une page et demie ou deux pages, où Baghini développe tout un raisonnement pour essayer de répondre à la question « Est-ce que c'est bien finalement de manger de la viande? Est-ce que c'est moralement acceptable ?» Et c'est vraiment très très drôle. Alors chaque fois que je lis une histoire, je fais moi-même l'exercice. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que je répondrais? Tiens, est-ce que ce serait respectueux de manger Priscilla? Je suis moi-même végétarienne, donc c'était une question qui me pose problème.
Oui.
Et ou bien, est-ce que non, je refuse catégoriquement de faire plaisir à ce cochon dont le but et d'être mangé. Alors, c'est vraiment très drôle. Il y a beaucoup de situations. Je ne sais pas, soit ça parle de morale, mais pas que. Hein. Ça peut parler d'infidélité. Il y a des machines à être infidèles virtuellement. C'est vraiment, vraiment amusant. Je vous le conseille. Et je trouve aussi que, alors, enfin, moi, c'est une impression que j'ai, à l'heure où c'est de plus en plus difficile dans la société d'avoir un vrai débat. Il y a des gens qui sont pour quelque chose, qui sont contre quelque chose, et alors on a l'impression que la fracture est totale. Je veux dire, moi je suis pour, moi je suis contre. Essayons de débattre pour un peu rapprocher nos points de vue. Ce n'est pas très... Enfin, c'est de moins en moins faisable dans une société de la cancel culture, hein, où tout ce qui n'est pas oui et non. Et donc je trouve que c'est une façon de réfléchir, une façon de... Ouais, de prendre le temps d'une réflexion par rapport à une problématique donnée, qui en général, la problématique donnée, est très, très drôle.
Et où finalement, effectivement, non seulement la question et la réflexion sont plus importants que la réponse.
Que la réponse éventuellement.
On se fiche finalement de l'avis de l'un ou de l'autre. Ce
Absolument.
Qui est chouette, c'est de débattre et de réfléchir ensemble.
Oui,
et,
oui. Le cheminement de la pensée, et le cheminement de la logique.
Ça peut être aussi un bon outil pour les enseignants ou même pour, voilà, pour des amis qui veulent passer un week-end. Et, c'est un peu comme un jeu de société,
ah, oui,
finalement.
Ah oui, oui, tout à fait. Et je, disons que ce n'est pas simple. Hein. Ce n'est pas simple. Bon, même, enfin, moi, je, personnellement, j'ai la version anglaise. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous lire un extrait. Mais j'aurais pu envisager, effectivement, de passer ça à une classe. Mais peut-être un petit passage... Et éventuellement un peu simplifié, parce que c'est quand même de la philosophie, donc c'est,
oui, je pensais pas tout à fait aux dernières années de secondaire, par exemple.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Et ça pourrait être très amusant. Il y a, il y a des situations, bon, il y a par exemple quelqu'un qui est sur le sur une falaise, et puis il voit un monsieur qui se promène sur la plage, et il s'aperçoit que c'est Picasso. Et non, d'un jour, Picasso fait un dessin, mais fabuleux, mais qui vaut une fortune. Mais évidemment, la marée monte. Donc comment garder le souvenir de ce dessin qui est voué à disparaître? Et ce n'est pas comment dans la pratique, parce qu'il a un appareil photo. Et est-ce que ça vaut la peine de le faire? Enfin, c'est toutes des petites situations vraiment très intéressantes. Et puisque je parle, puisque le titre est... The Pig That Wants to Be Eaten en anglais, j'ai choisi, je vous propose, une chanson de Pink Floyd qui s'appelle Pigs on the Wing.
If you didn't care, what happened to me? And I didn't care for you. We would zigzag away through the border. Occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bug is to blame. And watching for pigs on the wing, you know that I care. What happens to you? And I know that you care. For me too. So I don't feel alone on the way to the stone. Now that I've found somewhere safe to bury my bone, and any fool knows a dog needs a home. A shelter from pigs on the wing.
Oui, bien voilà, nous voilà revenus. Donc, Lou aime parler anglais, donc c'est pour ça qu'elle a dit le titre en anglais. Mais ça existe aussi en français.
Je l'ai sous les yeux en anglais, mais je peux répéter les titres en français si vous voulez. Ça s'appelle « Le cochon qui voulait être mangé » et « 99 petites histoires philosophiques ». C'est de Julian Baggini et c'est paru aux éditions Faust.
Voilà. Alors, le temps passe, on commence à avoir faim.
Tu as faim ?
Oui, oui. Et puis, il y a des gens qui jouent à avoir faim, ou qui jouent avec la faim des autres, peut-être.
Oui, effectivement. Alors, c'est un énorme succès littéraire chez les adolescents, qui a été adapté au cinéma, et qui a eu pratiquement le même succès que Harry Potter, hein, je pense. Ça s'est vendu presque aussi bien,
oui,
en tout cas.
Oui, je pense que ça a eu le même succès. Ça... Je ne sais pas si on en parlera encore dans 20 ans, mais oui, oui, oui.
Ben, en tout cas...
Ça fait déjà un petit temps, cela dit, que c'est sorti, voilà. Et on en parle encore.
Et il y a un nouveau tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps, donc ça s'appelle Hunger Games, les jeux de la faim. C'est de Suzanne Collins, et pour ceux qui connaissent un tout petit peu le cinéma japonais, si vous connaissez Battle Royale, vous aurez compris le principe. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous l'expliquer. Ce sont donc c'est un futur relativement proche dans lequel notre monde s'est totalement effondré. Nous sommes évidemment aux USA, qui ne s'appelle plus du coup USA, mais qui porte le nom de Panem et qui a été découpé en 12 districts, plus ou moins éloignés de la capitale. Et dans ces 12 districts, chaque année, un garçon et une fille de chaque district sont sélectionnés, sont moissonnés pour participer à ce qu'on appelle les Hunger Games. Ils vont se retrouver dans une arène et vont devoir se battre jusqu'à la mort. Un seul vainqueur ou une seule vainqueur. Tous les autres meurent et le vainqueur remporte les Hunger Games et accède donc à une vie de richesse, puisqu'en tant que vainqueur, il reçoit des prix. Il reçoit une nouvelle maison dans son district et il est adulé par le Capitole.
Je vois la tête de Lou et Lou, je te confirme, c'est horrible
comme
histoire.
Ah oui,
je le déconseille. Oui,
c'est atroce.
Oui, je le déconseille très fortement en dessous de 14 ans parce que, effectivement, il est. Et pour les personnes qui sont très sensibles et qui ont beaucoup d'imagination.
Âme sensible, s'abstenir.
Oui, bon, voilà. Je vais m'abstenir.
Voilà,
absolument.
Je pense.
Non, rien que la manière dont tu en as parlé, ça me fait penser à Squid Game, en fait.
Mais c'est exactement le même. C'est exactement le même principe. Oui. Voilà, Squid Game, qui est cette série Netflix qui a énormément de succès en ce moment.
Et qui fait des dégâts dans les cours de récré.
Oui,
mais qui est très réussie visuellement.
Oui, oui, oui. Elle est vraiment très, très belle. Ça, on ne peut pas lui retirer. Mais effectivement, pour les âmes influençables, ça peut très très vite être particulier, on va dire. Et donc, dans ce livre, on suit l'histoire de Katniss, qui est une jeune fille qui a 16 ou 17 ans. Elle a 16 ans, voilà. Elle a 16 ans. Elle vit dans le district 12, qui est considéré comme le district le plus pauvre de tous. Puisque les seuls moyens de gagner de l'argent dans le district 12 sont d'aller... se tuer, en fait, en allant dans les mines pour récolter du charbon et donc raccourcir sa vie, puisque les mines de charbon ne sont évidemment pas l'endroit le plus sympathique où travailler. Donc le père de Katniss est décédé dans une explosion qui s'est produite dans la mine il y a quelques années. Il n'y a donc plus d'hommes dans la famille, il y a donc très peu d'argent qui rentre, puisque... La mère est une ancienne infirmière, mais qui, après le décès de son mari, a complètement perdu les pédales et s'est laissée complètement aller. Et il y a Katniss, qui a donc 16 ans, et qui a une petite sœur un peu plus jeune, qui s'appelle Primrose. Et donc le seul moyen que Katniss a pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est d'aller chasser en dehors des limites du district, et donc de gruger un peu le système. Hein, de... Alors elle doit faire très attention parce qu'il y a la police de ce moment-là qui s'appelle les pacificateurs. Donc voilà, ils ont un très très joli nom pour désigner des personnes qui tirent à vue sur tout ce qui n'est pas à la bonne place. Donc voilà, c'est vraiment un univers extrêmement violent. Où en fait, ce fameux jeu des Hunger Games, des gens qui doivent, des jeunes, hein, qui peuvent être sélectionnés à partir de l'âge de 12 ans. Donc dès l'âge de 12 ans, en fait, ils peuvent être sélectionnés et envoyés... à la mort, tout simplement.
Et c'est un bouquin qui dénonce une situation ou pas du tout ?
Oui.
Oui, c'est un bouquin qui
ça dénonce. Ça dénonce totalement la situation. Alors, on a Katniss qui, du coup, n'aime pas la situation dans laquelle elle est, mais s'en contente à peu de choses près, en grugeant et en allant chasser alors qu'elle n'en a pas le droit, ce genre de choses. Et en fait, elle va... Donc, c'était pas Katniss, en fait, qui va être... choisie cette année-là pour les 74e jeux, mais sa petite sœur Primrose.
D'accord.
Qui doit avoir quelque chose comme 13 ou 14 ans grand maximum. Et donc, Katniss qui la voit s'avancer pour se faire moissonner, sachant que sa petite sœur est quelqu'un de très doux, de très gentil, qui ne veut pas tuer sa chèvre pour la manger, qui préfère s'en occuper pour avoir du lait, etc. Katniss sait que sa sœur Prime, si elle participe au jeu, va mourir, et dans un élan de protection, se porte volontaire à la place de sa petite sœur.
D'accord.
Donc voilà, c'est comme ça qu'elle se retrouve embrigadée dans ce machin-là, hein, du coup. Et en fait, sa vie va changer du tout au tout, puisque donc les jeux sont retransmis en direct à la télévision au Capitole. Le Capitole qui est donc la capitale, son nom est assez évocateur. Et pour survivre, en plus d'être intelligent, de savoir quand même un minimum se battre et d'être capable de tuer un autre être humain, ce qui n'est quand même déjà pas facile, il faut aussi savoir résister aux conditions dans lesquelles ils vont être mis dans l'arène. Parce qu'ils sont envoyés dans une arène qui est extrêmement grande, et dans ce premier volume, ils sont lâchés en plein milieu d'une forêt où il y a des animaux sauvages qui peuvent les tuer, mais qu'eux peuvent tuer pour les manger, éventuellement, c'est une possibilité, où il y a des intempéries qui peuvent les tuer, et si jamais, à tout hasard, il n'y a pas suffisamment de massacres pour que ce soit intéressant, les maîtres du jeu peuvent décider de créer des incendies, de balancer des boules de feu pour forcer les joueurs à se rencontrer, à se battre et à s'étriper. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sombre, mais qui est très très bien écrit. Donc ça c'est vraiment un point positif. Et alors on est tout le temps dans la tête de Katniss, et donc on est tout le temps dans la tête de quelqu'un qui vit ça, qui ne trouve pas ça normal, et qui est accompagné par du coup le jeune homme qui a été pris dans son district, qui s'appelle Peeta. Voilà, et donc ce premier tome, je ne vous raconte pas tout, parce que comme c'est en trois tomes, il ne faut pas non plus que je vous dise exactement ce qui va se passer, mais ce que je peux au moins vous dire, c'est que dans la tête de Katniss, ça ne va pas se passer comme ça. Elle ne va pas se laisser faire.
Voilà. Oui, heureusement, hein.
Oui.
Sinon, mais sortait d'ici, on allait se pendre immédiatement.
Oui, mais face à un tel système, par rapport à de tels rouages mis en place, ça va être difficile, à mon avis.
Très difficile. Et la trilogie est comme ça. On s'attache à des personnages qui vivent des choses horribles, parce que voilà, il faut quand même dire ce qui est. On s'attache à des personnages dont on sait qu'ils ne seront plus là après quelques chapitres aussi.
Mais oui.
Il y a notamment un personnage auquel je pense en particulier. Je ne vous donne pas le nom, parce que si vous avez envie de le lire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment découvrir à ce moment-là, mais moi, il y a un personnage en particulier qui m'a vraiment touchée, et c'est normal, puisque c'est le personnage qui va mettre un peu le feu aux poudres.
D'accord.
Voilà.
Et ça a beaucoup de succès auprès des adolescents, c'est ça?
Oui,
dès que c'est sorti, ça a eu beaucoup de succès.
Ah, ouais. Oui.
Et des jeunes adultes.
Aussi, oui. Mmh. Bah, moi, je l'ai lu quand j'avais 19 ans. Mmh. Donc, et c'était encore suffisamment intéressant, entre guillemets, pour quelqu'un d'adulte. Parce que, bah, justement, les thématiques sont très adultes. Hein, j'ai envie de dire le meurtre... parce qu'au fond, c'est ça, hein, mais c'est le meurtre télévisé, c'est quand même pas quelque chose... C'est pour ça que moi, en dessous de 14 ans, honnêtement, je ne le prêterai pas.
Oui, d'accord.
Même à des enfants qui ont l'habitude de lire, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on voudrait donner à des enfants aussi jeunes. À partir de 14 ans, je pense que ça peut se discuter avec les parents, en fonction du niveau de lecture et de la sensibilité,
du monde aussi, oui.
De la compréhension du monde, de la sensibilité, tout ça. Et après, au-delà de 16 ans, je pense qu'en général, on est suffisamment mature pour savoir que c'est à nous de travailler pour ne pas atterrir dans ce genre d'univers pourri. Oui. Voilà, mais c'est un très, 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 très beau livre. Extrêmement dur, mais extrêmement bien. Avec plein de rebondissements, plein d'aventures. Et quand même une petite histoire d'amour, parce que bon, c'est pas parce qu'on est en temps de guerre qu'on n'a pas le droit de s'aimer.
Absolument vrai.
Ah bah oui, voilà, tu parlais de temps de guerre, un enchaînement. C'est aussi un livre qui parle de guerre quelque part, mais bon.
Ah oui, Marie Fizaine, elle nous entraîne là depuis quelques pages au cœur de la guerre. On a enterré donc Louis Fizaine, le dernier homme de la famille qui a été fusillé à la citadelle à Liège. Et nous continuons avec de douloureuses nouvelles. Donc voilà, on reste dans des choses pas très gaies. Papa avait appris cette nouvelle avec une certaine stupéfaction, sans trop comprendre, ou plutôt si, il avait très bien compris, mais... Juliette s'était assise tout au bord de la chaise, la colonne très raide, avec son chapeau par-dessus qu'elle redressa des index et des pouces. Ne sachant si elle devait être debout pour la circonstance, elle avait de légères secousses de gauche à droite, ce qui faisait penser qu'il y avait de petites aiguilles sur son siège. Ses yeux exprimaient une grosse difficulté à dépasser ce pourquoi elle était là. Aussi, son regard ne quittait pas son frère. Son air extrêmement grave laissait prévoir que la nouvelle était d'importance. Comme toujours, elle cherchait à dominer son interlocuteur. Savoir qu'elle allait, ici, bousculer son frère et qu'une fois de plus, elle possédait la priorité dans les ramifications familiales. « Alors quoi ?» dit mon père. Le mouchoir de tante Juliette avait glissé de sa manche et sur son nez avait fait un bruit anormal en deux temps. « On doit sortir, » a dit maman, d'ordinaire très patiente. « Non, non, » répondit-elle de ses mains agitées qu'elle aligna ensuite sur ses genoux, en crispant des doigts par à coup le tissu de sa jupe noire plissée. « Enfin quoi ?» dit encore papa. Juliette commença enfin sur ces mots. « Tu te souviens de Valérie ?»« Valérie, la cousine !» Il n'était nul besoin de lui rafraîchir la mémoire. Certes, Valérie était très loin, si loin, qu'il cherchait à revoir sa jeune silhouette, à entendre sa voix hors de portée depuis des lustres, et c'est elle qui soudain remuait ses souvenirs. Valérie, enfermée si profond dans sa tête, il fallait remonter les ans, se rappeler. Si jeunes qu'ils étaient autrefois à se retrouver durant quelques semaines de vacances. Un jour, le faire-part de mariage lui était parvenu, et puis plus rien. Juste avant la Première Guerre mondiale de 1914, Valérie épousa un employé allemand de cette ambassade à Bruxelles. Rappelé au pays, le couple partit pour Hambourg. Après les 4 années de séisme de 14-18, la cousine revint bien sûr chez ses parents, mais les cousins, non, ils ne s'étaient jamais revus. Ce dont il était certain, c'est que sa sœur cherchait toujours un moyen d'entretenir les relations. La parenté, ça lui plaisait jusqu'à enregistrer les déménagements s'il le fallait. Mais bon sang, quoi, avec Valérie ? Parle, dit-il à sa sœur. Est-ce que tu sais qu'elle avait 2 enfants, commença tante Juliette en élevant le ton ? Évidemment, il ne savait pas, pas plus ça qu'autre chose. Valérie avait 2 enfants, une fille et un fils. Eh bien, le fils, cette fois nous y sommes, pensa mon père. Oui, son fils est bien, son fils. Tante Juliette tourneboulait son mouchoir au creux de la main. Chez elle, le mouchoir était un accessoire de bienséance. Il prévenait les petits incidents et marquait parfaitement une note de politesse. J'y arrive, pensa-t-elle. C'était donc si embrouillé. Dans certaines circonstances, les mauvaises nouvelles sont encore 100 fois plus mauvaises. Tante Juliette, informée des événements qu'elle allait devoir dévoiler, se sentait responsable d'en faire part à toute la famille. Ce fils s'appelait Hans. Il était allemand par son père. Cela va de soi, ponctua papa. Il a été enrôlé de force dans la Wehrmacht et il s'est retrouvé sur le front à Stalingrad, dans cette bataille effroyable en 1942-43. Le fils de Valérie a été tué. Enfin, il a disparu à 23 ans. Comme le mien, dit alors maman d'une voix sourde et blessée. Mon père a blêmi sans plus prononcer un seul mot. Soulagée, tante Juliette était visiblement soulagée. Une lumière se faisait quelque part, d'une étrangeté soudaine. Incroyable, et personne n'y pourrait rien. Ainsi, une peine cruelle devenait identique d'un côté de la frontière et de l'autre, parce qu'un cousin et une cousine se renvoyaient la dureté impossible qu'ils avaient à vivre dans cette guerre atroce. Juliette s'était tournée vers sa belle-sœur. « Tu comprends, Joséphine ?» Elle comprenait. « Et que devient l'ennemi dans cette réalité terrible ? Des parents qui n'y pouvaient rien. Un père, une mère anéantis par une même souffrance. Comment se regarderait-il aujourd'hui ? Est-ce toi qui as tué le mien ? Le mien est-il responsable ? Sur qui, sur quoi pleures-tu ? La pauvre mère a finalement dit maman. Puis papa a demandé à sa sœur « Comment sais-tu ?» Alors elle sortit une missive de son sac, la lui tendit. Il lut, regarda sa femme. « Non, fit-elle, cela ne changera rien. » Le silence a suivi, comme ça, tout drôle, tracassant, pesant. Questions énormes qui donneront aucune réponse. Le fils de Valérie ? Pas connu, jamais vu. Victime du nazisme, forcé de mourir tôt ou tard. Bien des années plus tard, la fille de Valérie nous arriva, non par hasard, mais par l'entremise de la fille de tante Juliette. Voulez-vous bien la recevoir ? À n'en pas douter, elle était venue guidée par une nécessité intérieure, une quête. Hélène avait épousé un Belge. Toute une histoire. L'arrivée d'Hélène en Belgique fut une conséquence de la construction du fameux mur de Berlin. Installée en Allemagne de l'Est, dans le deuil profondément inquiet, Valérie et son mari prirent peur pour leur fille. Leur décision fut de l'envoyer dans sa famille maternelle. Hélène fut aussitôt accueillie chez une sœur de sa mère, à Namur. Et je laisse les bonnes nouvelles pour la fois prochaine, car en 1946, figurez-vous que tante Juliette marie sa fille. Mais cela sera pour la prochaine fois. À présent, un petit peu d'allemand avec Ute Lemper qui nous chante Lili Marlène.
Unsere beiden Schatten sahen wie ein Haus, das wir lieb uns hatten, das sahen gleich daraus. Und sollte dir ein Leid geschehen, wer wird bei dir Laterne stehen? Wie ein Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden
wir ein Haus, das wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus, wenn sich die Städte im Nebel drehen, wer wird bei Laterne stehen, wie einst Lili Marlin, wie einst Lili Marlin, wie einst.
Bien, avant de se dire au revoir, hein, parce que le moment arrive bientôt, je pense que Coralie a une communication.
Exactement, oui. Vu que Isabelle, tu annonçais de meilleures nouvelles pour la prochaine fois, je tiens à vous dire que dans les bonnes nouvelles, on continue. Le Centre culturel du Beaucanton vous propose un spectacle qui s'appelle Le Prix Nobelge de Pierre Mathius. Oui. Mathius, voilà. J'ai toujours peur de d'écorcher un peu les noms de famille quand je ne les connais pas. Donc c'est un spectacle qui se fera le samedi 4 décembre à 20h30. Vous pouvez appeler au centre culturel pour réserver votre place ou leur envoyer un petit mail à réservation@ccbeaucanton.be. Donc ce sera un spectacle humoristique sur la langue française, mais propre à la Belgique, et nos petites expressions un peu rigolotes, un peu sympathiques.
Nos belgicismes.
Exactement.
Donc effectivement, un peu d'humour, un peu de belgitude, un peu de culture.
Un peu de légèreté.
Un peu de légèreté en ces temps moroses.
Oui, voilà. Tant qu'on y est, on peut annoncer qu'il y aura Karim Baghili, hein, qui est quand même un musicien extraordinaire.
Effectivement.
Avec son trio, ça ce sera pour le vendredi 10 à 20h30.
Voilà, et donc les deux spectacles se tiennent aux anciennes écoles à Chigny. Donc surtout, bien téléphoner ou envoyer un mail pour réserver votre place, parce que vous savez bien qu'avec le Covid, hein, on n'est pas libre de tout, et je pense qu'il faut aussi avoir son Covid safe ticket. À vérifier quand vous réservez vos places pour bien être sûr, mais il faudra quand même vérifier ça. Donc voilà, donc je répète, il y a le prix Nobelge pour le samedi 4 décembre et il y a un concert de Karim Baghili ou Baghili ?
Moi, je dirais Baghili, mais...
Karim Baghili, je ne sais pas, ça sonne
pas
bien.
Italien,
on ne dit pas une girafe, on dit une girafe.
Il est Jordano-Yougoslave.
C'est le J.
Mais oui, mais en général, en Yougoslavie, le G, je dis quand même J.
Baghili.
Allez, Baghili. Et donc, Karim Baghili en concert le vendredi 10 décembre à 20h30.
Et ce dont nous sommes sûrs, ce n'est pas de la prononciation de son nom, mais c'est de la qualité de son travail.
Exactement.
Voilà qui est bien dit.
Ah ben, le temps presse, le temps passe. Il sera bientôt trop tard, alors on va vite dire au revoir.
Oh, comme cela est joli. Eh bien, je vous salue tous et toutes.
Je retourne dans mon terrier et je vous embrasse bien fort.
Et moi, je vous dis à la prochaine fois.
Voilà. Nathan est à la technique, il ne dit rien.
En culture.